Association des amis de l'Andouillette. Et puis nous recevrons un monsieur qui s'appelle, et je ne vais pas prononcer son nom très souvent parce qu'il s'appelle Arsbron Naouned, et qui est l'auteur d'un livre tout à fait remarquable, consacré aux runes. Les runes étant une forme d'écriture sur laquelle il nous donnera des... Oui, c'est ça, les runes de Fervo, bien sûr, Philippe, là. Sur lequel il nous donnera plein d'explications. Et puis nous recevrons Michel Valadier et Loïc Mérian pour nous parler de l'association Jeunes Chrétiens et de l'association Renaissance Catholique. Voilà tout ce que je voulais dire. Je constate une chose dans les informations que nous a donné le mini-journal de notre bonne Victoria, c'est que Edith, qui s'est dérangée pour comment il s'appelle, Aïssa, pour aller rendre visite à la famille d'Aïssa, ne s'était pas dérangée pour la boulangère de Stein, qui pourtant est morte, tuée par des Arabes. Donc, on voit que quand un arabe meurt dans un commissariat, ça fait bouger le Premier ministre, tandis que quand une boulangère meurt tuée par des Arabes, ça fait bouger personne, même pas le sous-préfet. Mais ça, on savait déjà depuis longtemps. Ce que je constate aussi, c'est que la dame Cresson part sur les chapeaux de roue, puisque ça fait à peu près, ça fait une semaine qu'elle est en poste. Elle est déjà fâchée avec Bérégovoy, puisque Bérégovoy veut augmenter la TVA et pas elle. Elle est fâchée avec Marchand, qui veut faire quelque chose qu'elle ne veut pas, je sais plus quoi, vous avez expliqué
mais non,
ça.
Mais... Apparemment, elle a l'air de dire qu'on n'a pas donné les médicaments du bon pauvre petit.
Ah, c'est ça, voilà. Ouais.
Tandis que l'autre dit, l'autre pour le moment, aucune faute n'a été commise,
et
on
puis,
ne peut rien dire.
Ce qui est beaucoup plus grave, parce qu'être fâché avec Marchand, ça n'a vraiment aucune importance, tandis que le personnage n'a pas d'importance non plus. Mais elle est fâchée avec le Japon. Et là, quand même, c'est peut-être un tout petit peu plus grave d'être fâché avec le Japon. Ne serait-ce que parce qu'ils sont quand même beaucoup plus nombreux qu'elle. Et puis, je voudrais faire une remarque sur la carence de l'enseignement français, car si les abrutis et autres crétins analphabètes qui accusent le Barou d'être un organisme antisémite ou d'avoir publié un missel antisémite avec simplement des connaissances de base du latin, il saurait que l'expression qui a été traduite par juif perfide est une expression qui signifie juif en opposition à la foi, ou plutôt en travers par rapport à la foi, perfidem. Père étant le préfixe qui indique la torsion, la mauvaise direction, comme dans pervers, et fidèle exprimant la foi. Donc la perfidie en question n'a strictement rien à voir avec le vice ou le défaut qu'est la perfidie. C'est une question de latin, c'est une question de connaissance du latin. Mais on ne peut pas attendre de gens qui ne savent même pas parler français qu'ils aient une bonne connaissance du latin, c'est l'évidence même. Nous ne nous en formaliserons donc pas. Nous constaterons simplement que l'affaire a été lancée par ce que Jean Madiran a très joliment appelé un sycophante, c'est-à-dire un dénonciateur professionnel. Un jour, j'avais parlé des sycophantes à la mutualité, dans un discours à la mutualité. J'avais dénoncé les sycophantes, et le journaliste de Libération, qui doit être aussi celui qui croit que juif perfide, ça veut dire ce que ça ne veut pas dire, avait traduit par scolopendre. C'était, pour lui, des sycophantes, c'était des scolopendres. Ce qui n'est pas faux, d'ailleurs, on peut dire, en fait, c'est à peu près la même race. Donc, Jean Madiran a montré que l'affaire du missel antisémite, mettez les guillemets vous-même du Barou, est née dans les lignes de la Croix, c'est-à-dire qu'évidemment, c'est toujours c'est les faux culs de la Croix qui lancent le truc. Ça a été naturellement repris par Le Monde, puis par Libération, ça va très certainement faire l'objet d'un papier dans l'Excrément du jeudi, etc. Enfin, on connaît, c'est la filière habituelle de la crapule sycophantienne. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Maintenant, je me tourne
donc
vers...
Donc l'émission est terminée,
on s'en va, voilà. Je me tourne vers Serge, puisque tu as pris la parole, je voudrais que tu nous expliques... Alors, je voudrais d'abord que tu nous dises un mot, peut-être après, on parlera de ton éditorial de cette semaine. Je voudrais d'abord qu'on parle de la raison première pour laquelle tu es là, et ensuite on verra avec Jean-Yves la raison seconde. La raison première, c'est que tu organises, en tant que secrétaire général de la Fédération de Paris Front National, une grande fête. Quand et où? Je suis en train de chercher.
Oui, une grande fête champêtre le samedi 8 juin. Alors ça démarrera à 11h et ça se terminera fort tard dans l'après-midi, dans un endroit très sympathique en banlieue ouest de Paris. Alors hélas... L'ami et militant qui nous prête ce lieu très très agréable et très très beau ne souhaite pas, bien entendu, que son adresse soit communiquée par voie de médias, de presse, etc., car, à ma foi, dans la démocratie dans laquelle nous vivons, cela pourrait lui elles attiraient quelques problèmes. Par conséquent, c'est en téléphonant au 45 22 25 91, je répète, 45 22 25 91, et puis en, à Radio Courtoisie également, et en s'inscrivant qu'une carte donnant le droit à accéder à cette fête et également donnant toutes les indications nécessaires à s'y rendre, mais c'est assez facile puisque c'est à quelques minutes à peine, à quelques kilomètres du pont de Melun que cette fête se situe. Alors quelques kilomètres, et puis ce sera d'ailleurs fléché le jour J, c'est-à-dire le samedi 8 juin, ce sera fléché depuis le pont de Melun jusqu'à l'endroit correspondant. Et très facile d'accès, c'est à 35 km de Paris, donc aucun problème pour s'y rendre.
Alors, c'est une fête présidée par, par Jean-Marie Le Pen.
Évidemment.
Ouais. Avec alors, déjeuner champêtre, c'est préparé par la roulante de Dounaïev. Alors, on connaît tous la roulante de Dounaïev. C'est un monument de la gastronomie collective, on peut dire, un haut lieu roulant d'ailleurs de la gastronomie collective. Il y aura un tirage d'un loto, il y aura un mat de cocagne,
alors,
auquel les élus du Front National, eux, pourront monter.
J'attire l'attention de nos auditeurs sur le fait que le tirage d'un loto n'est pas le genre de loto que l'on assiste chaque dimanche, que je vais peut-être dire une énormité, parce que le loto, je ne le regarde pas, je n'y joue pas.
Chaque mercredi.
Le loto traditionnel avec les cartons et kin, etc. Donc ce jeu de société amusant et collectif.
Est-ce qu'on peut gagner une oie? Parce que souvent on gagne au loto une oie.
Ah ouais.
Et alors quand on habite la Courneuve et qu'on n'est pas rompu à l'assassinat des animaux, au 88e étage d'une tour de la Courneuve, une oie c'est...
Parce que tu parles d'une oie vivante en plus.
Ah bah oui, toujours.
Oui, mais elles peuvent indiquer la présence d'envahisseurs éventuellement, et en ce sens, à la Courneuve aussi, ça peut rendre service.
Ça peut aboyer.
Oui. Donc oui, il y aura de nombreux lots, je n'en connais pas la liste, mais il y a effectivement des lots.
Il y a un poney club, je vois aussi.
Oui, mais ce sera très agréable pour les enfants, car c'est en forêt, et par conséquent, dans la verdure. Et puis, des chansons françaises avec Paul Morin, bien connu de nos amis, et surtout un grand tournoi de chevalerie. Alors ça, c'est fait par des professionnels, c'est-à-dire qu'il y aura de nombreux chevaux, des gens habillés comme à l'époque, et qui feront des joutes. Bon, ils n'iront pas jusqu'à...
Des joutes médiévales.
...se blesser ou s'achever, mais ils distrairont, je pense, très bien tous ceux qui assisteront. Alors, participation aux frais, c'est 150 francs, tout compris, toute distraction et nourriture comprise, et pour les enfants de moins de 12 ans, 50 francs. Voilà, alors j'ai donné des numéros de téléphone auxquels on peut téléphoner pour obtenir
renseignements. Je le rappelle quand même, c'est 45 22 25 91, 45 22 25 91, tous les renseignements sur la grande fête champêtre du samedi 8 juin 91, il va faire beau bien sûr, à partir de 11h avec Jean-Marie Le Pen, à proximité du pont de Melun. Et si par hasard vous n'arriviez pas à avoir les informations, vous pouvez toujours aller jusqu'au pont de Melun et là des tas de flèches. Vous indiqueront le lieu de cette fête champêtre du samedi 8 juin.
Et puisque décidément je suis ce soir déguisé en vendeur de salade, je peux dire également que dans tous les bons hebdomadaires, Minute par exemple, on peut trouver toute indication, mais c'est aussi dans National 2, puis ce sera bientôt dans Présent.
Alors, Serge, maintenant on peut parler de ton édito, parce que il se trouve que... Il s'est passé la semaine dernière.
Ah mais non, je refuse, parce que tu m'as dit, il y a une grande fête, ou que sera cette grande fête, mais tu m'as dit aussi, tu m'as posé la question tout à l'heure, pourquoi je n'ai pas répondu à cette partie de la question, et je tiens à ne pas éluder cette question importante. Eh bien tout simplement parce que la Fédération de Paris a été reprise il y a maintenant 6 mois, enfin en novembre, et que nous essayons de lui donner un dynamisme toujours plus fort. Nous avons organisé beaucoup de manifestations tout au long de ces 6 mois. Le Palais des Congrès, qui, comme ceux qui y ont participé le savent, a été un beau succès puisqu'il y a eu près de 4000 personnes et puis d'autres. Et nous approchons des vacances maintenant. Et je crois qu'avant les élections régionales et leur campagne, qui démarra intensément à la rentrée, eh bien il faut peut-être se quitter pour prendre des forces dans de bonnes conditions de sympathie, de convivialité, de gaieté. D'où l'idée de faire une grande fête qui réunira le plus grand nombre possible d'amis de nos idées de Paris et de la région parisienne. Voilà la motivation.
Bien, et bien comme ça nous voilà informés. Alors, heureusement que tu m'as interrompu puisque j'allais sauter un des aspects de cette soirée et qui est important puisque il s'agit du parrainage que vous connaissez maintenant puisque je crois que c'est la troisième fois qu'on en parle. Parrainage de l'expédition ou l'opération ou le, j'ose pas dire le pèlerinage parce que c'est pas exactement ça, qui s'est baptisé Marie Lituanie et qui consiste pour un groupe de jeunes travailleurs et étudiants à se rendre en Lituanie au mois de juillet pour apporter aux catholiques lituaniens une aide à la fois morale et matérielle, une aide qui consistera en livres et en moyens de diffusion de la pensée, c'est-à-dire photocopieurs, polycopieurs, magnétophones, magnétoscopes, cassettes, disquettes, etc. Alors, Véronique Lindemann est parmi nous pour la troisième fois.
Voilà.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et je vais vous demander de nous faire un point rapide de la situation. Où en êtes-vous? Qu'avez-vous obtenu? Quel contact avez-vous? Et de quoi avez-vous encore besoin?
Alors, je tiens déjà à remercier tous les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont eu la gentillesse de répondre favorablement à l'appel. Et je remercie entre autres une entreprise de transport qui va nous prêter une camionnette.
Ben, il faut dire son nom parce que ça, c'est vraiment la moindre des choses qu'on puisse faire.
Alors, c'est Monsieur Chabanis. Je ne connais pas le nom de l'entreprise, mais enfin, le directeur est Monsieur Chabanis, donc qu'il soit remercié. Et donc, il nous prêtera normalement une camionnette ainsi qu'une 205 de place.
Voilà, formidable ça.
Donc alors, un grand merci à ce monsieur qui va aussi nous permettre de rentrer en contact avec l'entreprise Ranx et Xerox qui sera susceptible de nous donner du matériel de reproduction. Voilà, donc Bien. Ça c'est une première chose. Un grand merci donc à monsieur Chabanis. Par ailleurs, je veux remercier aussi d'autres auditeurs qui malheureusement n'ont pas déposé leurs coordonnées, qui ont remis des livres chez Blandine Mestralet ou à la Guilde Européenne, mais qui... Nous ne pouvons pas remercier par un petit mot écrit, donc merci à eux. Et si les prochains donateurs, s'ils veulent bien nous préciser leurs adresses afin qu'on les remercie plus personnellement. Sinon, donc on a eu un certain nombre de livres, y compris quelques nouveaux testaments en lituanien par un Polonais qui était parti il y a quelques années en Lituanie. Voilà. Et sinon, nous avons eu deux duplicateurs de cassettes, voilà, de particuliers. Et un duplicateur de cassette d'une autre jeune entreprise qui se monte. Et quelques chèques aussi également qui vont permettre financement de l'essence essentiellement et les péages pour l'instant.
Bien. Ça c'est formidable. Alors sur le plan pratique, l'association est en cours de création.
Voilà. Donc l'association Marie-Lituanie. Donc c'est ça. Au niveau des chèques, si les auditeurs veulent nous faire des dons financiers, il est important de libeller les chèques au nom de l'association Marie-Lituanie et de les adresser chez Blandine Mestralet, M-E-S-T-R-A-2-L-E-T, 50 rue Blomet, Paris 15e. 50 rue Blomet, Paris 15e. Et pour tout renseignement, il est toujours possible de nous contacter au 40 56 90 25. Je répète, 40 56 90 25. Pour plus de renseignements, pour des dons plus précis. Au niveau des livres, je veux dire que ce qui est important, c'est que ce soit des livres en bon état, de doctrine catholique, alors en allemand ou en anglais si possible, sinon en français. Et des livres relativement simples au niveau de la traduction, voire de la catéchèse pour enfants, des livres d'images pour enfants.
Alors, je vais vous donner connaissance là, d'un message qu'on a reçu qui me touche particulièrement parce qu'il vient de M. Pierre-Louis Malin, qui est correspondant de l'Institut de France, Académie des sciences morales et politiques, et qui nous écrit « Vous avez raison d'appuyer les jeunes gens qui montent une opération d'aide spirituelle à la Lituanie. J'ai moi-même visité il y a quelques années les pays baltes et j'ai éprouvé des sentiments de fraternité pour ces peuples visiblement occidentaux. C'est frappant pour qui, comme moi, y arrive en venant de Russie. » Pays si rudement opprimé. Cette impression est évidemment plus forte encore en Lituanie qu'ailleurs en raison de la catholicité de ses habitants. Je voudrais aider ces jeunes gens au moins par un conseil que voici. Pour se procurer gratuitement des livres, souvent neufs, il faut s'adresser à l'association Adiflore en la personne de son président, l'ancien ministre Xavier Deniau, député du Loiret à l'Assemblée nationale. Suivent les numéros de téléphone nécessaires ou à l'AFAL, 18 rue Brillat-Savarin. Également les numéros de téléphone. Je suis sûr qu'il s'intéressera au projet généreux de vous protéger cordialement. Alors je remercie Pierre-Louis Malin de cette lettre de soutien. Je vous la remets d'ailleurs.
Merci.
Vous avez tous les numéros de téléphone et vous pouvez contacter Xavier Deniau. Voilà, pour résumer, encore des livres, encore des chèques du montant que vous pourrez bien sûr. Mm-hmm. Il s'agit d'aider, je le répète, par un appui matériel dans le domaine spirituel, les catholiques de Lituanie, qui ont besoin d'ouvrages de piété, d'ouvrages religieux, d'ouvrages catholiques, en anglais, en allemand, en français et en lituanien si possible. Il s'agit également de les aider à communiquer, à faire connaître la vie de leur communauté catholique de Lituanie, en les aidant à se procurer, ou en leur procurant, des photocopieuses, des polycopieuses, magnétophones.
Cassettes vierges aussi, cassettes de musique voilà. Sacrée également. Ce que je voulais simplement rajouter, c'est que hier, nous avons une réunion de coordination avec les différents responsables des associations en rapport avec la Lituanie. Et ce qui est très riche, c'est de chacun, les uns et les autres, on s'entraide et on se redonne les bonnes adresses, les donateurs, je dirais, entre guillemets, et ce qui permet d'être vraiment très structuré en vue d'être le plus efficace possible. Et donc c'est là où on apprend que la fin de cette semaine part déjà un nouveau convoi en Lituanie.
Vous nous aviez annoncé une projection de...
Oui,
ça s'est passé quand?
Alors en fait, ça aura lieu jeudi prochain, donc il est bon de le rappeler à nos auditeurs.
Il faut rappeler l'adresse et l'heure.
Donc alors c'est jeudi 6 juin à 20h30, à la Maison des Œuvres Saint-Léon, 11 place du Cardinal Hamet, Paris 15e. 11 place du Cardinal Hamet, Paris 15e, à 20h30. C'est un diaporama sur la Lituanie. Il s'agit plus exactement de l'historique de l'Église catholique lituanienne.
Voilà. Très bien. Véronique Lindemann, je vous remercie.
Simplement une dernière chose, excusez-moi, pour les dons de livres, si les auditeurs avaient la gentillesse de nous les déposer directement à la Guilde européenne, 11 rue de Vaugirard, Paris 7e. 11 rue de Vaugirard, Paris 7e, entre 14h et 19h. Voilà, merci.
Voilà, merci à vous, et puis à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de l'opération Marie-Lituanie. Et je me tourne maintenant vers Serge Martinez et vers Jean-Yves Le Gallou, parce que nous allons parler évidemment de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en ce moment même, c'est-à-dire la mise à sac de certaines banlieues par des bandes ethniques. Serge, tu as consacré ton éditorial de cette semaine à ce sujet. Le titre en est parfaitement explicite, c'est « Foutez-les dehors ». Je crois qu'on ne peut pas être plus direct. Et je crois que là, Minute la France renoue avec un ton que certains croyaient abandonné, un ton un petit peu vigoureux, un ton de coup de gueule. Tu as vraiment été... frappé par...
C'est tout un programme exprimé directement en quelques mots, mais je crois que c'est un programme vaste et complet et qui pourrait peut-être contribuer à régler certains problèmes de déracinés, en leur donnant après tout la possibilité de se réenraciner dans des terreaux plus propices à leur développement harmonieux.
Ah, oui, je crois aussi que tu exprimes une chose dans cet édito qui me paraît tout à fait justifier le titre d'apparence un peu violente. Il faut que les Français de papier, situés les étrangers, sachent qu'ils ne pourront pas toujours détruire, frapper, voler impunément. Il faut que ceux qui n'ont aucun droit ne soient plus tentés de s'en arroger par la violence, et que ceux qui en ont quelques-uns comprennent que ces droits ne sont rien s'ils ne sont pas accompagnés de devoirs. Je crois que ça résume à peu près complètement la position qui a été tellement caricaturée, la position de la droite nationale, et en l'occurrence du Front National, sur le problème de l'immigration. C'est-à-dire que on nous a dit vous êtes des racistes, vous êtes contre l'immigration. Je crois que c'est pas vrai. Je pense que la position, c'est l'immigration, si elle doit servir la France, si elle doit être un apport et un élément positif, à condition d'être admise sous un contrôle extrêmement pointilleux, d'accord. Mais l'immigration comme un dégueuloir ou comme une espèce de déversement sans contrôle ni frein de tous les malheureux, de tous les miséreux, de tous les nécessiteux de la décolonisation, non, il n'en est pas question. Alors, Jean-Yves Le Gallou, toi tu viens de publier le livre Bleu, Blanc, Rouge, que tu sous-titres Plaidoyer pour une région enracinée, et qui est un bouquin tout à fait remarquable, pas du tout ennuyeux, contrairement à ce que sont très souvent ces essais politiques, sur le problème de la ville, le problème de l'urbanisation dans son acception moderne, dans son acception actuelle. Et tu es l'un des spécialistes les plus pointus de l'immigration en tant que phénomène social, phénomène de société. Alors je voudrais demander aussi bien à toi Jean-Yves Le Gallou qu'à toi Serge Martinez, quel est votre sentiment sur ce qui se passe en ce moment? Alors il y a plusieurs questions. Est-ce que c'était inéluctable? Est-ce que c'est en quelque sorte un phénomène naturel, étant donné le nombre des conditions préalables réunies depuis quelques années. Est-ce que c'était évitable? Comment était-ce évitable d'une façon raisonnable? C'est-à-dire que je crois qu'il est clair que une réponse du style « il faut supprimer l'immigration » ne peut pas être considérée comme une réponse raisonnable, dans la mesure où c'est, me semble-t-il, une impossibilité matérielle, actuelle. Enfin bon, voilà, toutes les questions qu'on peut poser sur ce sujet. Jean-Yves, première question quand même, quelle est à ton avis l'importance réelle à l'heure actuelle du phénomène de l'immigration dans l'urbanisation, ou dans plutôt les problèmes de l'urbanisation?
En ce qui concerne l'Île-de-France, et si l'on prend simplement les chiffres officiels, et les chiffres d'entrée réguliers, je ne parle même pas des étrangers, des étrangers clandestins, ils rentrent actuellement de l'ordre de 60 000 étrangers supplémentaires chaque année. Alors 60 000, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire 5 fois la cité des Indes à Sartrouville. Ça veut dire 5 fois la cité des Bosquets à Montfermeil chaque année supplémentaire. Voilà l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, nous parlons de la seconde génération maghrébine, et je crois que les événements de Mantes-la-Jolie sont hélas très, très instructifs. Mais on va parler demain de la seconde génération noire africaine et de la seconde génération tamoule, et il y a tout lieu de craindre que les problèmes soient encore plus difficiles. Je dis que Mantes-la-Jolie, c'est une démonstration dramatique. Si l'on regarde, moi je prends ce que j'ai lu, alors je ne sais pas si c'est complètement exact, mais si ce que j'ai lu est exact, au fond le père... est apparemment un employé de longue date des usines automobiles. Il n'a qu'une femme, il n'a que deux enfants, et puis l'un d'entre eux meurt à la suite des émeutes, et non pas d'ailleurs de la faute de la police, mais tout simplement de maladie, puisque là, c'est une maladie qui tue beaucoup en France, et pas seulement dans les commissariats. Et à partir de là, il y a une masse de jeunes qui se réunit, 600, 800, 1000 jeunes, et qu'on pourrait croire intégrés, qui devraient l'être si le discours qu'on suit depuis 20 ans, 30 ans, les politiques qu'on suit depuis 20 ans, 30 ans étaient efficaces. Eh bien, ils se réunissent, et quel est leur cri de ralliement? Allah Akbar, qui est à mon avis moins là un cri proprement religieux, car je ne crois pas que tous ces jeunes étaient au sens propre islamisés, mais qui est un cri politico-religieux, et qui est d'un certain point de vue la manière la plus simple de marquer leur différence et leur refus d'être comme ceux qui les accueillent. C'est bien l'échec total de l'intégration, c'est aussi le produit, je crois, du déracinement. Le Front National avait annoncé ce qui se passe depuis longtemps, et je crois qu'on peut annoncer la prochaine étape. La prochaine étape, ce sera les émeutes en chaîne de ville en ville. Jusqu'ici, on les a, on a une semaine l'une, une semaine l'autre. Il y aura un jour, on aura les émeutes en chaîne.
Alors un auditeur téléphone en disant plusieurs policiers ont été abattus cet an dernier. Samedi, des policiers plongeurs à qui on avait signalé un cadavre dans la Seine, n'ayant rien trouvé, sont remontés à la surface où ils ont été canardés par des jeunes. Consigne a été donnée de ne pas transmettre à la presse des nouvelles de ce genre pour ne pas inquiéter les populations. Et on sait qu'il y a un caviardage extraordinaire de l'information sur la délinquance et sur la délinquance émeutière en général. Il y a un mot maintenant, c'est très curieux comme on voit évoluer le vocabulaire. Maintenant on sait que le mot « jeune » utilisé par un journaliste de radio ou de télévision, ça veut dire « jeune arabe » ou « jeune nègre ». C'est parfaitement clair, le mot « jeune » est une espèce de vocable englobant, et quand il s'agit d'un jeune français, on dit d'ailleurs un jeune d'origine française. On précise toujours, dans ce cas-là, qu'il est d'origine française, parce que c'est intéressant pour la statistique de savoir ça.
C'est la logique orwellienne, c'est la novlangue.
C'est la novlangue.
On
n'emploie
plus les mots, mais il y a des codes. C'est là que c'est un petit peu, je dirais, quand même naïf, parce que tout le monde décode.
Oui, tout le monde.
Ceci étant, vous oubliez que le jeune devient jeune beurre quand il devient victime.
Ah, quand il est victime,
il y a quand même des conversions.
Absolument, il reste, par exemple, Aïssa était un jeune quand il a cassé, puisqu'il a été pris en flagrant délit de jet de pierre sur une voiture de police, si je ne me trompe pas. Et d'ailleurs, Libération dit qu'il a été pris parce qu'il ne pouvait pas courir. Il n'a pas du tout été arrêté parce qu'il jetait des pierres sur les policiers, mais il a été arrêté parce qu'il ne pouvait pas courir. Ce qui est extraordinairement révélateur d'une mentalité, d'une complexion intellectuelle de cette gauche qui considère que l'injustice, en fait, c'est qu'on arrête le malheureux qui ne peut pas courir.
C'est l'histoire du lion et de la gazelle.
Ouais, c'est ça. Il devrait y avoir quand même que des policiers Kudjat. Comme ça, ça mettrait tous les manifestants à égalité, sauf les Kudjat, bien entendu, comme disait Brassens. Sauf les Kudjat, ça va de soi, ça mettrait tous les manifestants à égalité devant la police. Ça n'est pas le cas, hélas. Alors effectivement, Aïssa Ilitch, ne pas confondre avec Vladimir Ilitch, était un jeune tout court quand il jetait des pierres, et il devient un jeune beurre quand il meurt d'une crise cardiaque asthmatique dans un commissariat. Là, on voit bien comment se développe effectivement cette novlangue. Il y a une chose qui est très très importante, je crois, à remarquer dans la psychologie de ces foules. C'est une psychologie de fauve. C'est-à-dire que on a vu, par exemple, on sait que les journalistes de radio et de télévision sont en face de ces jeunes de véritables carpettes. C'est-à-dire que on leur sert la soupe, on leur cire les bottes, on explique que le rap c'est une chose admirable, c'est une expression culturelle admirable, que le tag c'est une expression artistique inégalable, que ces jeunes gens sont l'avenir de la France et que sans eux la démographie serait pratiquement bloquée. Enfin, on explique ça à longueur de journée. Et quand ils vont sur place, ils se font démolir la gueule à coups de barre de fer, ce qui est très très bien fait pour eux. C'est-à-dire qu'une des images qui m'a fait le plus plaisir ces temps-ci, c'est d'avoir vu un type d'une radio périphérique reprendre la route de Paris et de son studio avec le crâne défoncé, parce qu'il n'y a pas de raison que ça leur arrive pas à eux de temps en temps. La façon dont ils ont parlé, par exemple, de la boulangère de Stein, eh bien là, ils ont pu vérifier expérimentalement ce que c'était que de se faire lyncher par des bandes d'Arabes déchaînés. Et on sait qu'Arlène Désir, qui est allée sur place, s'est fait, ou en tout cas injurier, peut-être même fessé.
Moi, j'ai entendu sur France Inter qu'il s'était fait taper.
Ce qui veut dire que...
Pour eux, c'est un bounty.
Oui, c'est un bounty. C'est noir dehors, blanc dedans. Ouais. C'est que c'est une espèce de radis nouvelle méthode, nouvelle manière. C'est pas nous qui le disons, je précise tout de suite à l'attention des observateurs auditeurs du MRAP et de la LICRA, le mot était, nous ne faisons que reprendre un mot qui a été prononcé je ne sais plus qui, sur une radio
périphérique. Une autorité morale.
Par un beurre, oui, c'est un, oui, c'est ça. C'est
une autorité morale.
C'est une autorité morale qui a dit ça. Alors, on apprend une chose qui est intéressante, qui montre que c'est une auditrice qui nous signale ça, et ça ouvre quand même la deuxième partie de cet entretien. Une auditrice nous dit qu'elle a appris que des médecins musulmans seraient autorisés à assister à l'autopsie du jeune du jeune mort le week-end dernier. Ça prouve qu'on est en train d'entrer dans la fameuse société mosaïque, dans le Liban à la française. C'est-à-dire que quand un arabe va mourir, il faudra faire assister des médecins musulmans à l'autopsie, et naturellement je pense que quand un arabe va assassiner une française, qui arrive parfois, c'est rarissime mais ça arrive, il faudra que des juges musulmans, qu'on appelle je crois des oulémas, soient autorisés à figurer dans le jury. Ou alors est-ce qu'il faudra faire juger par la loi musulmane? Alors c'est à peine une plaisanterie. Serge, en tant que rapatrié, je sais que tu n'aimes pas tellement qu'on réveille ses souvenirs, mais enfin, tu as vécu 18 ans dans un pays où existait ce voisinage entre musulmans et européens, d'ailleurs différence qui ne veut rien dire, parce que maintenant il y a des européens musulmans, et il y a des arabes qui ne le sont pas, mais est-ce que tu as l'impression de retrouver dans la situation présente des choses que tu as connues à l'époque? Ou est-ce que c'est radicalement différent?
Bon, c'est totalement différent, et même s'il y a eu à la fin de ce qu'on a appelé les événements d'Algérie, des détentions intercommunautaires, elles avaient d'autres origines. En fait, le problème était différent, car là-bas, il y avait des racines, et chacun vivait dans son terrain, et avec non pas la volonté d'être intégré ou pas intégré, ça ne se posait pas, car on était chez soi. Mais je vais revenir, car tout à l'heure, J'ai répondu par une boutade à ta question pour le pot de l'éditorial. Moi, de toute façon, ce qui me choque beaucoup plus, c'est l'éditorial qui se... qui voulait pousser un coup de gueule, il n'y a pas d'autre terme, en disant foutez-les dehors, vise aussi bien les fauteurs de troubles que des gens qui sont pour moi beaucoup plus à la fois irresponsables, mais pire que ça, criminels. Car, bon, je peux comprendre un masochiste à condition qu'il pratique son sport en n'ennuyant pas les autres. Je peux comprendre un sadique à condition qu'il le pratique aussi, mais sans créer de préjudice à qui que ce soit.
D'ailleurs, à eux deux, si ça doit pouvoir
absolument. Assez facilement. Donc, je verrais très bien les socialistes et les responsables socialistes enfermés dans les ghettos en question et après tout vivre et apprendre à cohabiter ensemble. Mais le problème, c'est que ces belles âmes qui nous gouvernent, qui ont pendant des années insisté sur le fait que, effectivement, en repeignant les ascenseurs, en donnant des crédits, en arrangeant ces cités, etc., le problème disparaîtrait. Nous avons investi des milliards immédiatement détruits par les mêmes qui y vivent et qui sont des destructeurs. Bon, aujourd'hui, c'est le chômage, aujourd'hui, c'est l'oisiveté, aujourd'hui, c'est la non-formation. Alors, je rappelle que, bon, l'école en France est obligatoire et que les portes de cette école sont ouvertes à tous ces jeunes immigrés. Et que s'ils n'y vont pas, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas la volonté et n'ont pas la sagesse et qu'il n'y a pas d'autorité qui leur montre ce qu'est la morale, ce qu'est la bonne voie. Et que, par conséquent, ils se déracinent et ils ne s'intègrent pas, mais pour une raison évidente. C'est que s'intégrer, c'est s'intégrer dans une communauté. Or, ils se regroupent entre eux, et ils sont tellement nombreux que finalement, s'intégrer à quoi? Puisque leur voisin de palier, leur voisin au-dessus, le voisin agréé, est le même qu'eux. Donc, ils recréent ces ghettos qu'on connaît partout dans le monde, ils les recréent tout naturellement, parce qu'il est évident qu'on a tendance à se rapprocher de ses amis avec lesquels on a de l'affinité, et leur quantité, leur nombre, leur masse leur interdit totalement l'intégration. Mais c'est eux-mêmes qui se l'interdisent.
Je crois que ce que faisait remarquer Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure est très très important pour apprécier la valeur du remède que paraît constituer aux yeux de certains l'intégration. Parce que c'est vrai que le père du garçon de l'émeutier qui est mort, peut apparaître, et même la famille peut apparaître comme un modèle d'intégration, puisque le père, comme tu nous le disais Jean-Yves, est ouvrier depuis 40 ans ou 30 ans, 20 ans ou 20 ans, peu importe, oui. Enfin depuis très longtemps semble-t-il, dans une usine d'automobile, il a une seule femme, donc c'est pas un musulman polygame qui pose encore des problèmes, il a deux enfants, c'est-à-dire que c'est pas... il ne pose pas le problème des familles innombrables à trois femmes et 22 enfants qui sont absolument évidemment inintégrables dans le tissu français. Et le gosse, le fils, est de ceux qui rejoignent les émeutiers quand une émeute se déclenche. Alors moi, il se trouve que, j'ai été élevé à Nanterre. Nanterre, c'est pas un haut lieu de la bourgeoisie française. Hein, et ben, je n'ai jamais eu l'idée... tous les camarades que je pouvais avoir n'auraient jamais eu l'idée de se joindre à une émeute. Si s'était produit quelque chose de ce genre à cette époque-là, on serait resté chez nous. À la rigueur, on aurait regardé par la fenêtre, mais on ne serait pas descendu jeter des pierres sur les voitures de police. Donc c'est bien une mentalité particulière qui fait ça. Je ne sais pas si cette mentalité est explicable par des éléments ethniques ou des éléments de tradition, ou des éléments de culture, ou simplement explicable par des éléments conjoncturels. Mais le fait est là, c'est que quand il y a une manifestation de ce genre, violente, c'est en quasi-totalité des étrangers qui manifestent, ou des Français de papier, et qui manifestent avec une violence incroyable. Il suffit de lire présent tous les matins pour découvrir, sous la plume d'Alain Sanders, qu'en Seine-Saint-Denis, c'est extraordinaire, on vit dans une situation de dangerosité que la France n'a pas connue, même à l'époque de la forêt de Bondy.
Il faut savoir que j'ai un exemple aussi précis. Hier, j'étais à Colombes au conseil municipal. Eh bien, la femme du responsable de notre section m'a expliqué que le jour même... son autobus avait été caillassé, la vitre avant la brisée, à 5 heures de l'après-midi, c'est-à-dire en plein jour.
Oui, c'est en permanence. Là, on publie dans Minute la France cette semaine une chronique de l'insécurité ordinaire. On a pris 48 heures en France. Et encore, n'a-t-on pris que les cas de violence, d'agression, de cambriolage, de vente de trafic de drogue, de hold-up, d'incendie criminel, de meurtre, prise d'otage, rixe, vandalisme, vol et viol, qui se sont déroulées en France en deux jours, mais attention, ceux dont la presse a parlé, uniquement ceux dont la presse a parlé, la presse de province, c'est-à-dire une petite partie de ceux qui ont été déclarés à la police, lesquels ne constituent en eux-mêmes qu'une toute petite partie de ceux qui se produisent en réalité, puisque naturellement les gens, par exemple pour ce qui est des vols, des cambriolages, des vols de voitures, des vols d'auto, enfin des vols d'autoradio, des choses comme ça, les gens ne portent plus plainte puisque ça ne sert à rien, et que mieux que ça, quand on va porter plainte, la police fait tout pour dissuader le plaignant de poursuivre son action, puisque ça fait de la paperasse, mais surtout parce que ça fait de la statistique. Et là, on arrive en une page à des résultats incroyables. Enfin, dans les agressions, à Annay, un automobiliste est volontairement heurté par une voiture dont les occupants sont masqués. À Bastia, un commerçant est attaqué par deux malfrats à moto au moment où il dépose sa recette à la banque. À Beuil, sur le quai de la gare, deux voyageurs sans billets frappent violemment le contrôleur. À Issoudun, un pompiste est agressé par deux hommes à la bombe lacrymogène. À Marseille, un automobiliste est agressé par un motard. Deux hommes sont agressés à coups de couteau alors qu'ils se promènent sur la Calbière. Un cuisinier agresse une prostituée sourde et muette. Une vieille dame âgée est agressée dans son immeuble par un loubard. À Montluçon, un chauffeur de taxi est blessé d'une balle à la tête. Bon, il faut que je précise une chose, c'est que nous avons sélectionné volontairement uniquement des affaires dont il est, par les témoignages ou par les noms des personnes, par les témoignages des victimes ou des témoins, ou par les noms des délinquants arrêtés, évident qu'il s'agit de crimes, de délits commis par des étrangers ou par des Français de papier. Alors, les cambriolages, c'est incroyable, on peut même pas tous les citer. Des affaires de drogue à Marseille, à Nice, c'est par dizaines que ça se compte. Des hold-up, il y en a eu à Malestroit, c'est le quatrième en six jours. À Marseille, une succursale de Crédit Lyonnais et un employé et un bar PMU ont été attaqués. À Ajaccio, troisième incendie criminel en sept mois. Alors là, il s'agit probablement d'ailleurs d'une affaire plus liée aux activités des indépendantistes, des terroristes indépendantistes qu'autre chose. Une galerie marchande. À Marseille, un kiosque à journaux à proximité de la préfecture de police est incendié. Des meurtres à Cannes, à Chambat, à Merdignac. À chaque fois, il s'agit de à Chamba, il s'agit d'une jeune fille de 17 ans, à Merdignac, une femme assassinée, prise d'otage à Île-Rousse dans une banque, Rix au Mans, monsieur Hossin Amri plante un couteau entre les omoplates de Youssef Magroup, c'est-à-dire là, il s'occupe de limiter l'immigration eux-mêmes, bon, on peut décemment pas s'y opposer, à Carcassonne, un cimetière profané, enfin, ça n'arrête pas.
Je crois qu'il y a un point, d'ailleurs, qui est intéressant à souligner, c'est que le discours d'intégration du socialisme, aussi du RPR et de l'UDF, puisqu'ils ont le même, aurait eu une petite chance, peut-être une chance de réussir, s'il y avait eu en même temps une répression de tous les actes délictueux. Or, en même temps qu'on tenait le discours d'intégration, au nom de l'antiracisme et au nom du laxisme judiciaire, on laissait les actes de délinquance se développer.
Je vais manifester mon opposition par rapport à ce que tu dis, car tu dis effectivement dans certaines notions, il est évident que les facteurs que tu soulignes étaient des facteurs positifs qui pouvaient aller dans le bon sens, mais on ne peut pas réussir une immigration quand on a à faire face non pas à un enrichissement par quelques individus qui viennent participer au travail de la collectivité, mais là c'est un raz-de-marée, on n'en dit pas un raz-de-marée, et l'immensité du flot fait que automatiquement il se crée des poches de territoires étrangers en France et ils s'intègrent à leur culture puisqu'ils importent, ils reconstituent.
Tout à fait d'accord avec ce que dit Serge Martinez, bien sûr, mais je crois que si les gens au pouvoir avaient eu une attitude plus répressive vis-à-vis des délinquants étrangers, alors qu'ils ont eu l'attitude la plus laxiste possible, eh bien, le seuil de tolérance ou le seuil d'intolérance aurait été à un niveau plus élevé. Or, c'est leur politique de laxisme qui rend les choses encore plus intolérables et plus immédiatement intolérables. C'est-à-dire qu'on voit là une contradiction dans les pratiques des socialistes au pouvoir.
On y revient dans une minute après une pause musicale.
Voilà, cette petite aire de guitare que vous venez d'écouter est interprétée par quelqu'un dont je vous donnerai le nom dans 2 minutes parce que j'ai pas la cassette sous les yeux. Et qui est un...
extrait des Jeux Interdits.
C'est un extrait des Jeux Interdits, bien sûr. Voilà, il s'appelle Jamil Ramouni. Et c'est un garçon que notre ami le père Jodin a rencontré dans le métro. Il joue de la guitare dans le métro. Et je trouve que c'est quand même plus... Alors, il a fait une cassette. C'est plus intéressant que du rap. Et on va illustrer cette émission avec les disques de Jamil Ramouni, enfin les musiques de Jamil Ramouni à la guitare. Je vous donne l'adresse à laquelle on peut se les procurer. C'est boîte postale 195 09 75 422 Paris SEDEC 09. Je vous redonnerai cette adresse. Vous verrez que, en tout cas, là, on est en face d'un cas tout à fait éclatant, lumineux, d'intégration artistique. Alors, Jean-Yves Le Gallou, Serge Martinez, Jean-Yves, tu as publié le livre Bleu, Blanc, Rouge, plaidoyer pour une région enracinée. Serge Martinez, tu es directeur général de Minute et l'auteur d'un éditorial qui devrait faire quand même un petit peu de bruit, puisqu'il est particulièrement vigoureux, et qu'il propose comme solution, tout simplement, l'expulsion. Ce qui est d'ailleurs la moindre des choses, si on veut bien y réfléchir, l'expulsion des fauteurs de troubles étrangers. Je vois un signe extrêmement grave de la vitellisation, si j'ose dire, de la transformation en veau des habitants de ce pays, dans le fait que cette proposition élémentaire, qui consiste à dire qu'il faut virer les étrangers qui sont fauteurs de troubles, constitue une surprise ou un élément de provocation.
Mais ça, c'est dû à l'intoxication. Je crois que les Français ne sont pas responsables, ils sont plutôt irresponsables. Mais ces Français, d'ailleurs, vont applaudir éventuellement quand ce soir, on parlait du football tout à l'heure, un joueur d'un camp ne respectant pas les règles du jeu se verra exclure du terrain et on dira bravo, c'est bien fait. Là, en fait, il s'agit de gens qui sont d'abord trop nombreux pour qu'il puisse y avoir intégration. Deuxièmement, ils n'en ont pas envie car il faut pour s'intégrer le vouloir. C'est la moindre des conditions. Et en fait, effectivement, il y a une faiblesse de la part de nos gouvernements, une faiblesse criminelle qui fait courir des risques colossaux à notre pays, de ne pas leur fixer des règles du jeu. S'ils veulent effectivement venir chez nous, après tout, à partir du moment où ils respectent ces règles et où l'équilibre entre ce qu'ils apportent et ce qu'on leur donne est atteint, bien bravo, mais là Tout est négligé, et je dirais même que on va encore les plaindre, et on les plaint d'ailleurs, leur montrant ainsi que leur violence valent une considération toute particulière. Alors ma réaction, elle est de dire, mais oui, effectivement, pour moi, il y a une solution, c'est tout simple, il faut qu'il y en ait moins, il faut que ceux qui ne veulent pas jouer sachent d'abord qu'on ne joue pas impunément en France en ne respectant pas les règles du jeu, et puis de toute façon, comme j'estime que certains n'ont pas de droit à être en France parce qu'ils ne sont pas français, à partir du moment où la France ne leur plaît pas et qu'ils veulent la casser ou l'abîmer, eh bien, qu'ils partent. Quant aux autres, qu'ils sont éventuellement français parce qu'ils ont trouvé leur carte d'identité dans un cornet surprise et que j'appelle les Français de papier, eh bien, il faut qu'effectivement, d'autant plus qu'ils ont, dans la plupart des cas, double nationalité, et qu'ils choisissent la nationalité qui les attire le plus et qu'ils aillent ailleurs. Et je le dis d'autant plus volontiers que, ma foi, se foutent les dehors, eh bien, nos gouvernants l'ont crié haut et fort quasiment, ou tout au moins l'ont accepté, quand l'Afrique a voulu devenir africaine et quand l'Algérie a voulu devenir algérienne. Et ils ont à ce moment-là, et j'étais de ces gens-là, ils ont accepté qu'effectivement, les Africains et les Arabes, nous ayant lâchés, nous soyons foutus comme des malpropres dehors en catastrophe et au péril de notre vie. Et grâce à Dieu, la France est beaucoup plus civilisée que ces gens-là ne le sont dans leur pays. Et ces gens-là ont applaudi, les ont même aidés à lutter contre leurs compatriotes qui n'étaient pourtant pas dans ces pays depuis quelques années à peine, mais quelquefois depuis des siècles, depuis plusieurs générations, etc. Alors pour moi, je n'ai vraiment aucun complexe et personne n'osera me traiter d'extrémisme ou de racisme. Je sais ce que c'est que de partir en 24 heures, une valise à la main et rien d'autre, en quittant le pays dans lequel on est né, son père est né, son grand-père est né, ayant respectivement fait les guerres de 40 et 14 pour la France, sans que les socialistes ne disent un seul mot, ne s'élèvent et au contraire, les ayant trouvés de l'autre côté de ceux qui luttaient contre leurs compatriotes et leurs frères de sang. Alors se foutre les dehors, je l'exprime d'autant plus librement que je crois que personne ne pourrait en face de moi me donner la moindre parcelle de remords.
Je donne la parole aux auditeurs et je te donnerai la parole ensuite, Jean-Yves, parce que je crois qu'il faudra qu'on pose une question précise. Un auditeur dit, j'ai entendu un père musulman dire ceci, quand un musulman veut donner une raclée à son fils, tout un bataillon d'assistantes sociales le menace de le lui retirer. C'est à méditer. Et c'est vrai, moi j'ai assisté à une scène un jour dans un supermarché à côté de chez moi, il y avait un jeune arabe qui avait volé quelque chose, et ce supermarché, comme ça se fait d'ailleurs maintenant tout à fait couramment, a embauché des vigiles qui sont eux-mêmes des arabes. Comme ça, au moins, on peut pas les accuser de racisme. Et le vigile a attrapé ce gamin, parce qu'il était un gamin qui devait avoir 10-11 ans, par la peau des fesses littéralement, lui a donné une claque, a lui arraché la tête. Et le gosse ne pleurait pas d'ailleurs, ce qui était assez surprenant, parce qu'il avait vraiment pris la baffe du siècle. Et le gars lui dit, est-ce que tu fais ça chez toi? Ce qui prouvait déjà qu'ils étaient d'accord sur le fait que chez lui, c'était pas chez nous. Et le gosse lui dit, non. Et il lui dit, pourquoi tu fais ça en France? Alors le gosse répond pas, et il dit, pourquoi tu fais pas ça en Algérie? Et le gosse lui dit, parce qu'en Algérie, mon grand-père me botterait le cul. Donc, on est en face là d'une situation... clair, il est parfaitement exprimé par cette anecdote et par ce témoignage d'un auditeur que c'est exactement le laxisme qui autorise et qui rend possible ces manifestations et ces émeutes. Parce qu'il est évident que ces gens-là, si on les traitait comme des émeutiers qu'ils sont, et si on les traitait par exemple comme on a traité des gens qui eux n'étaient pas des émeutiers, c'est les manifestants de la Jeanne d'Arc... C'est le jour du défilé de Jeanne d'Arc, je crois qu'ils ont tous été libérés, mais que plusieurs sont inculpés de violence à agent, ce qui est extraordinaire. D'ailleurs, quand on sait ce qui s'est passé réellement, à mon avis, on doit leur reprocher d'avoir donné des coups de tête sur les matraques. À 14h, dit un auditeur, à 14h aujourd'hui, les conducteurs de la ligne 20 se sont mis en grève à la suite de l'agression d'un chauffeur. Une auditrice nous fait remarquer que Malik Oussekine était malade. Et que le jeune Aïssa était malade aussi, il se pose la question de savoir quand même si c'est pas tellement curieux que chaque fois qu'il y a un incident qui concerne un immigré, on découvre qu'il est malade. J'apprenais cet après-midi que les maternités des hôpitaux français voient arriver beaucoup de femmes africaines qui sont enceintes de 8 mois et demi et qui sont arrivées en France depuis 3 jours. C'est-à-dire que ces femmes-là viennent accoucher en France, c'est parfaitement clair. Ce qui leur permet d'accoucher
faire des petits français grâce au code de la nationalité qui n'a pas été réformé entre 1986 et 1988.
Oui, ça, il ne faut pas oublier ce genre de détails.
Je crois que c'est très important. Il faut bien voir quand on dit ce sont des Français, ce sont des Français juridiquement, en même temps d'ailleurs qu'ils sont algériens ou marocains, parce que le code de la nationalité n'a pas été réformé en 1986-1988 par le gouvernement Chirac, alors même que M. Chirac, M. Giscard d'Estaing et quelques autres avaient promis de le faire en 1985 quand il s'agissait de capter les voix des électeurs.
Alors beaucoup d'auditeurs nous parlent de la grande manifestation qui s'est passée dimanche dans Paris avec au moins 10 000 sans-papiers qui ont défilé, c'est-à-dire que si on voulait vraiment les arrêter, c'était le moment ou jamais. Et un auditeur nous dit, il y a 15 jours dans l'église Saint-Joseph, dans le 11e, il y avait des immigrés tenant des banderoles avec les inscriptions « France, ton droit d'asile fout le camp, 91 000 morts au Mali ». C'est évident, il y a en ce moment au Mali une terrible guerre, il y a d'ailleurs sans arrêt de terribles guerres sur ce continent africain, on sait pourquoi, ce sont des guerres raciales. Ce sont des guerres tribales, au Mali c'est une guerre raciale qui oppose d'une part des ethnies nègres entre elles et ensuite les ethnies maures aux ethnies nègres. Donc ces gens-là s'entretuent, ça fait des milliers d'annexes ou des centaines d'annexes dures, ça n'a cessé que pendant la colonisation française, ça a recommencé avec la décolonisation. Et je voudrais faire une remarque, c'est que ces 91 000 morts, si ces gens-là veulent dire que pour éviter qu'ils soient morts, il aurait fallu les recevoir en France, comme Monsieur Kofi Yamnian, il faut faire très attention quand on prononce son nom, parce que quand M. Kofi Yamnian dit que la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde, il ne fait qu'exprimer une vérité première, mais c'est plutôt réconfortant de voir qu'elle est exprimée par un ex-togolais. En tout cas, il est clair que les raisons... Il y a deux moyens, je dirais, de faire cesser l'immigration, et c'est à ça qu'on va en venir, Jean-Yves Le Gallo, avec toi tout de suite. Une proposition qui a été faite depuis longtemps par le Front National qui est de bloquer la pompe à immigration, et ça c'est la solution Le Pen, si j'ose dire. Et puis il y a la solution Marchand, qui aboutira inéluctablement à l'interruption de l'immigration, c'est de remplir le réservoir. Parce que quand on a rempli un réservoir, on ne peut plus mettre d'eau dedans. Et quand il y aura 35 millions ou 40 millions ou 60 millions d'immigrés nègres et tamouls et arabes en France, eh bien, ils crèveront de faim aussi bien que chez eux, et à ce moment-là, ils n'auront plus aucune raison de venir. Mais le problème, c'est que nous, on crèvera de faim.
C'est une méthode cybernétique, en quelque sorte.
C'est ce qu'on appelle la méthode cybernétique. Alors, maintenant, pour en revenir à une conception plus sérieuse de l'actualité, est-ce que tu crois qu'il est raisonnablement possible, dans l'état actuel des choses, dans l'état actuel de la législation, de bloquer et d'inverser le flux migratoire?
Ah bah, dans l'état actuel de la législation, il faut savoir que les immigrés continuent de rentrer légalement, au titre effectivement du travail, au titre des demandeurs du statut de droit d'asile et au titre du regroupement familial.
Bon, Giscard et Chirac. Ouais.
Bon, encore une fois, il faut voir que tant qu'on ne sera pas revenu sur ces trois mesures-là, on maintiendra l'entrée régulière d'étrangers. À partir du moment où on aura fermé ces trois robinets, plus de carte de travail, plus de regroupement familial, ou du regroupement familial là-bas, bien sûr, et plus de demandeurs du statut de droit d'asile, si ce n'est quelques centaines par an bien choisis et effectivement persécutés politiquement, eh bien, on n'aura rien fait. Donc ça, c'est la première chose. Et jusqu'ici, seul Jean-Marie Le Pen et le Front National a proposé de faire ça. Et puis, bien sûr, il y a toute une série de mesures en termes de préférence nationale pour arrêter la pompe aspirante. Et puis, il faut organiser le retour. Alors, on nous demande parfois comment. Eh bien, je l'ai illustré de manière peut-être un peu plus douce dans mon livre, en l'illustrant tout simplement avec un avion. Comment repartiront-ils? Eh bien, comme ils sont venus en avion. Donc ça n'a rien d'inhumain. Il y a des moyens de transport qu'il faut utiliser, sans doute progressivement, mais il faut non seulement arrêter l'immigration, mais faire repartir ceux qui sont là. D'ailleurs, si on ne fait pas repartir ceux qui sont là, eh bien d'autres continueront d'arriver. Je ne sais pas si la comparaison est adaptée, mais enfin, on dit que la neige qui ne fond pas en attend d'autres. Mmh. Alors la neige, évidemment, c'est peut-être pas très adapté. Enfin, c'est la
même chose. Ils inventent beaucoup de neige.
Voilà. Il faut faire arrêter l'immigration légale, renvoyer les clandestins et organiser le retour progressif des immigrés présents aujourd'hui.
Il y a beaucoup d'appels autour de ces émeutes sur le thème. C'est quand même très 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 curieux. On avait annoncé qu'on redoutait des émeutes pendant les événements du Golfe. Il ne s'est rien passé. Et maintenant, trois mois plus tard, c'est le déchaînement.
Alors, ça se rattrape.
Oui, il y a même des auditeurs qui disent, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que ces émeutes ont été orchestrées? Par exemple, dit un auditeur, on constate qu'il y a en ce moment une espèce de tentative de déstabilisation du régime, l'affaire L'Oréal, par exemple, qui est une tentative de déstabilisation, c'est parfaitement clair, on en connaît les auteurs, on en connaît le mécanisme. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui, en quelque sorte, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas du tout eu de manifestation pendant la guerre du Golfe, ça a été très calme, et on peut se demander si maintenant il n'y a pas des gens qui agitent en quelque sorte ce petit microcosme très facile à agiter qui est celui de l'immigration.
On peut effectivement se poser la question. Moi j'ai tendance à penser qu'il y a eu, pendant la guerre du Golfe, ils craignaient la répression.
Et donc, ils beaucoup plus méchants. Moi, je crois que ces voyous, enfin ceux qui sont prêts à se mobiliser, n'ont ni foi ni loi, et que par conséquent, bon, un petit peu de solidarité avec les pays arabes, mais pas tant que ça. Alors que par contre, le plaisir de casser du flic et d'aller voler et piquer est beaucoup plus attrayant, motivant et rémunérateur. C'est tout. Hein.
Oui, mais peut-être que justement, s'ils l'ont pas fait pendant cette période, c'est parce qu'ils craignaient le fameux plan Vigipirate, et ils disaient qu'ils risquaient de se faire piquer.
Il y a aussi quand même un élément climatique, à savoir que les risques sont beaucoup plus élevés, et nos colleurs le savent, les militants du Front National, ils savent que c'est plus facile de travailler l'hiver, où il y a moins de monde dehors, que l'été, où il y a beaucoup de monde dehors, et je dirais avec l'heure d'été, jusqu'à 10h, 11h, minuit, donc les risques d'incidents sont beaucoup plus élevés quand le climat le permet. Et puis, moi, je crois qu'il y a un phénomène de décompensation, de rattrapage, de compensation, de rattrapage.
Et dans quelques jours, sinon semaines, les congés scolaires seront là, et par conséquent, il y aura encore plus d'inactifs et d'oisifs dans les cités, et un peu plus de chaleur, et par conséquent, certainement, un peu plus de risques.
Sachant d'ailleurs que le premier était chaud, mais on n'en avait pas parlé à l'époque, pratiquement. Le premier était chaud, ça doit être 80-89.
Il y a une hypothèse là qui est intéressante que je vous soumets, c'est un auditeur qui dit: est-ce que les socialistes ne seraient pas en train de monter un coup médiatique avec ces émeutes pour rendre en quelque sorte inéluctable le vote des immigrés? On voit très bien ces gens-là dire: écoutez, vous voyez, ils n'ont pas d'autre moyen de s'exprimer que la violence, donnons-leur le moyen de s'exprimer, donnons-leur la parole, laissons-les voter. Moi, ça me paraît pas idiot du tout, cette hypothèse.
Non, bah, je crois que c'est possible, effectivement, mais il faut pas non plus... sous-estimer ces émeutes, c'est le produit du déracinement. Ça, c'est un facteur de fond. Alors qu'ils puissent être plus ou moins manipulés, c'est l'évidence. Mais il y a le potentiel explosif existe indépendamment des manipulations et des manipulateurs possibles.
Alors, ils savent aussi qu'ils risquent rien.
Ah bah sur ça bien, aussi.
Beaucoup d'appels, un auditeur dit: le titre de l'édito de Serge Martinez est parfait, foutez-le dehors, parce qu'il ne s'agit pas de citoyens, il s'agit de petits guerriers qui sont pas autre chose que des mini-terroristes, je crois qu'il a tout à fait raison. Beaucoup d'appels disant: la solution, c'est, elle a déjà été appliquée, mais contre nous, c'est la solution algérienne, la valise ou le cercueil. Je crois qu'il ne s'agit pas de dire aux immigrés...
Enfin, il faut être beaucoup plus humain, mais il faut leur dire peut-être d'abord les avantages sociaux, comme l'a dit Jean-Yves tout à l'heure, sont réservés maintenant aux vrais Français exclusivement. Disons que nous vous donnons quelques mois, vous les avez encore, dans quelques mois vous ne les aurez plus. Par conséquent, sachez que vos sources de revenus, sécurité sociale, etc., vous se tariront, que d'autre part, éventuellement, vous avez la chance de partir dans un délai rapide, tranquillement, en réalisant vos biens. Et c'est ma solution, ça n'est pas un programme officiel, ça. Et éventuellement, en vous aidant financièrement à partir, et dans quelques mois, si vous n'êtes pas parti gentiment et de cette manière très élégante, eh bien, vous partirez sans rien.
On a reçu ce matin au journal un dossier qui est absolument extraordinaire. C'est un Togolais qui s'appelle pas Kofi Yann Nian, mais qui s'appelle, je ne sais plus comment, peu importe. Date d'arrivée en France, 2 avril 91. Date de dépôt date d'obtention d'une carte de séjour, 8 avril 91. Donc, et date d'obtention du RMI, 14 avril 91. En 12 jours, il a obtenu une carte de séjour et le RMI. Alors évidemment, quand on sait que le RMI représente à peu près 25 fois ce que le Togolais moyen a pour vivre, on ne peut pas reprocher à ces gens-là de se précipiter en France. Enfin,
imagine un pays... Ce qui est condamnable, c'est pas tant les émigrés eux-mêmes, en tout cas quand ils ne sont pas délinquants, c'est les politiques qui ont organisé, qui ont mis en place
Imagine un pays où on te dit...
Et lorsque le RMI a été créé, le Front National a mis en évidence la nécessité, s'il fallait le créer, de le limiter, bien évidemment, aux ressortissants français, ce qui n'a pas été fait.
L'aspect le plus aberrant de cette politique étant celui qui porte sur les allocations familiales, mesures d'aide au développement démographique de la France, par des Français, et qui sont accordées à des étrangers, ce qui est complètement aberrant. Enfin, là, c'est fou, c'est exactement comme si on avait donné, à l'époque où Giscard avait créé 1 million des immigrés, qui consistait à donner 1 million, 10 000 francs donc, aux immigrés qui voulaient rentrer chez eux, à chacun des immigrés qui voulaient rentrer chez eux, c'est exactement comme si on les avait donnés à des citoyens français, par exemple, à des Antillais ou à des Néo-Calédoniens, en disant: tenez, vous êtes actuellement en métropole, puisque vous allez retourner aux Antilles ou en Nouvelle-Calédonie, voilà 1 million de francs. Bon, on est vraiment dans un système totalement délirant, un système de folie. Un auditeur nous dit: ces événements ne doivent pas vous surprendre, ils couvaient depuis très longtemps, les policiers le savaient, qu'ils n'allaient plus depuis longtemps dans ces quartiers. Ça, c'est un autre aspect de cette situation ubuesque.
Là, il y a un paradoxe d'ailleurs à souligner, c'est qu'effectivement, il y avait le calme puisque les policiers n'y allaient plus. Et pourquoi les policiers y retournent? Eh bien, ils y retournent souvent parce qu'ils y sont appelés à la suite d'une provocation, un incident, incendie de voiture ou de maison. Et à ce moment-là, ils sont coincés. Les pompiers deviennent aussi en première ligne.
Oui, d'ailleurs, on comprend, là, on voit le caractère de stricte provocation violente, de sauvagerie du système, puisque le week-end dernier, une ambulance du SAMU a été attaquée, une équipe du SAMU a été attaquée, qui venait se porter au secours d'un des émeutiers blessés. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a un côté fauve là-dedans. Ils attaquent les pompiers, ils attaquent les journalistes qui sont pour eux, ils attaquent les médecins qui viennent les défendre, on a l'impression de chiens enragés qui mordent absolument toutes les mains, y compris celles qui voudraient les protéger. Et ça, c'est tout à fait inquiétant, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus aucun intermédiaire possible, qu'on est réduit à faire appel pour remettre de l'ordre à Marseille, par exemple, au consul de France, au consul d'Algérie à Marseille, qui est le seul intermédiaire toléré par les émeutiers. On est réduit en France à autoriser ou à demander à des médecins musulmans de participer à l'autopsie d'un émeutier mort d'une crise cardiaque. On arrive vraiment dans un système qui est tout à fait effrayant, tout à fait inquiétant. Une auditrice nous dit, 3 mois après l'indépendance, les ascenseurs étaient complètement fichus partout à Alger, sauf, dit-elle, dans les immeubles habités par des cadres du FLN. Et ça, c'est une réponse directe à ceux qui prétendent, comme le faisait Harlem Désir, que en fait, et Rocard d'ailleurs, que la solution consiste à donner à ces gens-là des immeubles avec des ascenseurs propres.
Ils le disent encore d'une autre manière, puisqu'ils disent qu'après tout, ces jeunes sont compréhensibles et même excusables, et qu'après tout, ils souffrent du fait qu'on ne leur donne pas assez, et donc qu'ils doivent continuer à faire plus mal, je veux dire, pour obtenir davantage, parce que quoi, ils sont mal logés, enfin ils n'ont pas assez, enfin il lui faudrait leur donner, j'allais dire, le beurre, l'argent du beurre, et leur tendre le dos pour se faire bastonner.
Il faudrait, propose un auditeur, que chaque ministre ait dans son immeuble un échantillonnage de ces gens-là, des taggeurs, des rappeurs, des beurs. C'est une bonne idée d'intégration. C'est vrai que si on proposait par exemple à Madame Cresson de consacrer une petite pièce de son immense appartement qui vaut, je sais pas, de 200 mètres carrés, qui est estimé à plus de 10 millions, qui lui a été vendu, je crois, par Monsieur Lagardère, dans les plus beaux quartiers de Paris, un tout petit espace pour loger un jeune africain ou un jeune arabe, moi je vous propose de lui trouver ça très facilement, hein. Il sera certainement ravi, ce garçon. Il sera servi d'ailleurs par des immigrés, qui sont les seuls immigrés que Madame Cresson connaît, comme tu l'as écrit, Serge, c'est-à-dire les bonnes portugaises, et ça devrait permettre à Madame Cresson de découvrir la vérité sur l'immigration, je pense. Le jour où ces murs sont tagués, Monsieur Lang, qui a dépensé des millions...
Et je dote ce prime, qui en tant que patron de Minute et donc mécène potentiel, je peux lancer un appel, mais je redoute, je crains plutôt que les taggeurs ne nous écoutent pas, mais dommage, peut-être qu'on pourra leur transmettre un grand concours à tous les taggeurs professionnels, ceux qui cherchent des lieux de qualité, comme par exemple le Louvre et autres, pourrait lancer un grand concours qui consisterait à décorer de tags tous les façades ou alentours proches de nos ministres et grands personnages, et j'offre une prime de 10 000 francs au tag qui aura le plus beau, qui sera le mieux fait et dont on parlera le plus.
Au musée Mitterrand à Château-Chinon, il y a un musée Mitterrand à Château-Chinon qui a été ouvert pour entasser tous les cadeaux que le président de la République a reçus depuis 10 ans. Et au musée de Chinon, on a demandé donc à Mitterrand de d'écrire avec à la bombe, donc de taguer sur un mur musée François Mitterrand. Ce qu'il a fait, on trouve ça très drôle. Il en a profité pour prononcer quelques mots sur ce nouveau genre d'expression artistique.
Voilà.
Qu'est le tag. Or, Monsieur Mitterrand habite rue de Bièvre, un superbe hôtel particulier qui est caché derrière un grand mur blanc. Eh bien, moi, je propose, Serge, si tu veux...
Non, mais il y a également Fabius, côté du Panthéon...
Là, c'est un endroit...
Je crois qu'il faut le privilégier, parce qu'après tout...
Mais je crois que le mur Mitterrand, rue de Bièvre, est très grand, il est très blanc, il est très beau, et je propose que tu as, donc la prime que tu viens d'annoncer, on la verse au gars qui fera le plus grand et le plus beau. À mon avis, ça va pas durer longtemps, hein. Il aura du mal à finir la première lettre. Mais il peut toujours essayer, en sachant
moi,
que...
J'ai stoppé de la limiter ça à mi-temps parce que j'ai une affection toute particulière pour langue, etc. Et j'aimerais qu'on étende le concours. Et vraiment que nos chers artistes modernes puissent s'exprimer librement et offrir à nos grands personnages qui apprécient de manière évidente ce genre d'art tout leur talent. Et là, je crois que malheureusement, je crois qu'ils n'écoutent pas cette radio-là. Mais c'est
bien. On demandera à nos confrères
en tout cas,
de
moi, je veux dire Paris.
De transmettre. Alors, quelques interventions d'auditeurs. Une auditrice guadeloupéenne dit c'est une bonne émission, une bonne discussion. Et elle nous cite un exemple. À Grigny, dans l'Essonne, passé 8 heures du soir, les Maghrébins passent aux caisses des supermarchés, caddies remplis de coca, de whisky, etc., le couteau à la main, et ils ne payent rien. Alors, il faut dire, ça peut paraître très surprenant, ça. C'est pas du tout surprenant. Il y a 3 jours ou 4 jours, une jeune caissière de supermarché a été condamnée pour avoir laissé passer à plusieurs reprises des étrangers, des immigrés, ou appelons ça comme on veut, les caddies chargés de victuailles, les avoir laissés passer gratuitement. Et au tribunal, elle a dit, écoutez, moi, il m'avait dit, si tu nous empêches de passer, on te tuera. J'étais terrorisée. J'ai prévenu ma direction qui n'a pas bronché, mais la direction n'a pas bronché, c'est évident. Elle a refusé d'assurer la sécurité de la caissière, mais elle a placé un inspecteur qui a regardé la caissière. Et quand il a vu qu'elle faisait ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas essayé d'arrêter les gars qui passaient avec les chariots, il a arrêté la caissière. Et elle a été poursuivie et condamnée pour avoir, en quelque sorte, tolérer qu'on passe à sa caisse sans payer. C'est vrai qu'il aurait mieux valu qu'elle prenne un coup de couteau, ça aurait certainement été beaucoup plus efficace. Alors ça, c'est un exemple. Un auditeur nous dit qu'à Saint-Ouen, 2 jeunes beurs de 17 et 18 ans ont été arrêtés au moment où ils tentaient de recruter des jeunes adolescentes pour les mettre sur le trottoir. À l'école, ils faisaient ça, s'il vous plaît. Donc, effectivement, en attendant d'avoir le bac avec 80% de leurs compagnons, et ils essayaient déjà de se préparer un avenir en mettant des jeunettes au travail. C'est ça l'esprit d'entreprise. J'entendais El Kabach ce matin sur Europe 1 qui invitait un jeune entrepreneur, Beurre, qui s'expliquait en disant que lui, il employait ses coaligionnaires. Alors c'est tout à fait formidable parce que on fait venir des Arabes pour construire des immeubles qui servent à loger des Arabes et on permet à des jeunes Arabes de créer des entreprises qui emploient des Arabes.
Ce qui est une discrimination, je pense que la LICRA et l'OMRAP...
Non, mais là, elle est autorisée.
Et un auditeur nous dit, il y a quelques jours, à moins de 100 mètres du journal Le Monde, un jeune Français a été sauvagement attaqué par une bande de voyous beurre. Aucun journal, aucune radio n'ont relevé l'agression. Ça, c'est constant. C'est-à-dire que ce genre d'incident se produit sans arrêt et jamais la presse n'en fait état parce que la presse est muselée sur ce point-là. Elle est muselée d'abord par le conformisme, par l'idéologie et puis aussi par la crainte des suites judiciaires qui sont toujours susceptibles d'intervenir. Et puis pour terminer, si vous permettez, mon cher Jean-Yves Le Gallou, Serge Martinez, je vais vous donner le slogan qu'un auditeur propose. Entre une France libanisée et une France lepénisée, je préfère la seconde. Ça me paraît un bon programme. Alors, Jean-Yves, on n'a pas beaucoup parlé de ton livre, mais on peut le faire encore. Parce que on pourrait croire que ce livre est consacré à l'immigration, ça n'est pas le cas du tout.
C'est un aspect. On ne peut pas parler du problème des villes, des banlieues et de l'Île-de-France sans parler de l'immigration. Mais l'immigration n'est qu'un aspect. Il y a hélas d'autres...
Pour dire, je crois combien ce livre est bien, mais aussi plein d'humour, car c'est très important. Je voudrais que tu retrouves une photo qui est là, mais il était émaillé d'anecdotes ou de commentaires finalement très amusants. Pourtant, on traite d'un problème finalement assez austère. Mais il y a une photo, je ne sais plus où elle se situe, Jean-Yves, où tu es dans une place d'une de nos chers banlieues.
C'est à Colombes. À Colombes, voilà. Ma dernière campagne électorale.
J'aimerais trouver la photo pour la décrire, parce que bon, ça passe mal à la radio. Mais en fait, on y voit, dans cette place bien française, un marchand de tapis peut-être pas persan ou persé, mais enfin fortement arabe, en tout cas, fortement arabe. On y voit un McDonald's derrière, on y voit un restaurant chinois, on y voit une population qui, ma foi, est en burnous, etc. Et le seul habillé en européen et qui est un physique qui ressemble à ma foi à quelqu'un de chez nous et Jean-Yves Le Gallou. Tout le reste est typiquement et totalement étranger. Et alors, il est précisé sur la photo, ce qui est amusant sur la légende, Jean-Yves Le Gallou à droite. Car ceux qui ne connaissent pas pourraient le confondre avec ceux qui sont en burnous, en tchador, et etc.
Alors oui, j'ai même eu un journaliste du Monde qui, voyant cela, m'a dit « Mais vous avez loué des figurants ». Or, malheureusement, il n'y a pas besoin dans les villes communistes de monter des décors pour avoir des McDonald's et des immeubles en béton, ni de louer des figurants pour avoir des femmes en tchador. C'est hélas le spectacle courant.
Certains habitants de Paris, mais les journalistes du Monde ne fréquentent pas ces quartiers-là, car ils font partie de la gauche caviar, certains habitants de quartiers de Paris connaissent en bas de chez eux ce genre de décor.
Mais ces gens-là, ils sont là depuis déjà longtemps, et les tchadors et tout ça, ils les mettaient pas avant.
Absolument, oui, donc tout à fait, c'était un phénomène nouveau.
Oui.
Je résume le contenu de ton livre, je le résume en parcourant la table des matières. La première partie, c'est un diagnostic, une mégalopole en crise. Tu analyses l'asphyxie de la circulation et des transports, la crise du logement, le saccage de l'environnement, la montée de l'insécurité et la tiers-mondisation. Ça, c'est un des aspects de l'entretien de ce soir.
Tout ça est lié, bien sûr.
La deuxième partie, c'est, je dirais, un diagnostic de deuxième degré, en disant, bon, il y a des mots et les solutions, plutôt les gens qui sont chargés de résoudre ces mots, n'y sont pas parvenus. Et c'est intitulé « La faillite des pouvoirs ».
Je crois que c'est le préfet de région qui a dit hier « Nous payons 30 ans d'imbécilité ».
Oui,
c'est le préfet de région représentant de l'État. Oui. 30 ans d'imbécilité, oui. Là c'est vrai, il a raison.
30 dont 10.
Mais 30 dont 10, 10. Ouais.
Il va pas garder
de socialisme socialiste et 20 de socialisme RPA-UDF.
Alors, les responsabilités de l'établissement politique, cosmopolitisme et mondialisme, la rupture de la tradition, les pouvoirs émiettés, la logique du clientélisme, corruption et lobby, et la carence des entreprises publiques de transport. La troisième partie, c'est alors les solutions alternatives, comme on dit maintenant, c'est-à-dire les solutions que tu proposes et que tu proposes en tant que président du groupe Front National au Conseil régional Île-de-France.
Oui.
Faire de l'Île-de-France une région enracinée, maîtriser la croissance de la population.
Alors, je crois que ça, c'est un point très important, parce qu'il faut savoir que les projets du gouvernement socialiste, comme du RPR et de l'UDF, c'est de faire passer la population d'Île-de-France de 10 millions et demi à 12 millions et demi dans les 20 ans qui viennent. Ça veut dire une aggravation considérable de tous les problèmes.
Bien sûr.
Crise du logement, circulation, transport, etc. Et que là, il faut évidemment inverser les choses, à la fois en maîtrisant l'immigration et en évitant de voir Paris continuer à vampiriser les ressources de la province, comme c'est le cas actuellement. Donc ce que nous proposons, c'est véritablement l'inverse de ce que propose, c'est un petit clin d'œil, le livre s'appelle le livre bleu-blanc-rouge, parce que le livre, les socialistes ont fait le livre rose, le RPA, l'UDF, le livre bleu, et ils avaient commis ensemble le livre blanc. Voilà. Alors, c'est la réponse du Front National qui est à l'inverse de ce que les autres veulent faire et de ce que les autres ont fait hier.
Et alors, parmi les autres solutions, donc une croissance plus sélective et plus équilibrée, la reconquête des centres, ce qui est, à mon avis, une urgence primordiale, l'embellissement de l'Île-de-France, qui est aussi...
Alors, je crois qu'il y a beaucoup de domaines en matière d'urbanisme où les choses qui ont été faites ont été aussi ratées, et parfois volontairement
oui,
ratées.
Alors, sur ce plan, je te demanderai de revenir, parce que je vais faire une émission sur l'urbanisme, sur les caractères à la fois sociopolitiques, même spirituels et symboliques de l'urbanisme, et je te demanderai d'y participer. Parce que je crois que c'est un sujet capital. Enfin,
très volontiers. Et je crois que les erreurs faites en matière d'urbanisme ont souvent été des erreurs volontaires. C'est-à-dire que quand on implante le bâtiment Pompidou en plein cœur de Paris, avec des volumes, des couleurs, des formes qui sont autant de provocations, ça n'est pas un accident, c'est une volonté. Donc on a abîmé les choses délibérément, et pas seulement par bêtise.
Jean-Yves Gallou, merci. Je rappelle que ton livre s'intitule « Le livre bleu-blanc-rouge, plaidoyer pour une région enracinée ». Il est publié aux éditions nationales, Centre d'études et d'argumentaires. Il vaut 100 francs. Et pour se le procurer, je suppose qu'on peut s'adresser à...
Il faut envoyer un chèque de 120 francs avec le port à Pierre Durand, groupe FN, 19 rue Barbé de Jouy, Paris 7e. Pierre Durand, groupe FN.
Merci encore. Alors, quelques appels d'auditeurs. Une auditrice nous rappelle qu'en Tunisie, les allocations familiales sont limitées à 3 enfants, ce qui est intéressant. Donc, au-dessus de 3 enfants, les Tunisiens ont intérêt à venir en France. Une solution, on pourrait pénaliser les entreprises qui embaucheraient des étrangers. Oui, effectivement, mais pour l'instant, c'est plutôt le contraire.
Il est interdit, au contraire, à une entreprise de faire cette discrimination.
Alors là, je vois une humoriste d'ailleurs, qui dit... Je vous indique un modèle de répression inventé par Staline, donc qui doit être investi du caractère humanitaire qui favorise, ou plutôt qui honore tout ce qui vient de l'Est et des pays socialistes. Modèle de répression inventé par Staline, la mitraillette.
La politique faire aussi appel à Boudarel.
Boudarel, par exemple. Jeunes, la politique d'aide au retour est un leurre, nous dit très justement une auditrice qui ajoute, en fait, certains en font pour trafiquer, en profitent pour trafiquer. C'est évident qu'on a vu ça avec le million des immigrés, où les gars avaient mis au point ce qu'on appelle, là c'était aussi une autre forme de tourniquet. Oui. Il ne faut pas oublier que certains entrepreneurs français sont des négriers et des exploiteurs avec les immigrés, c'est l'évidence même. On constate d'ailleurs généralement que ce sont les immigrés eux-mêmes qui s'exploitent entre eux, car très souvent quand on arrête...
C'est une forme de préférence sociale.
C'est une forme de préférence nationale. Quand on arrête un employeur au noir ou un comment appelle-t-on ça, un logeur, enfin il y a un nom spécial, eh bien il s'agit de très très souvent d'étrangers. Voilà, c'est à peu près les seules interventions d'auditeurs que je peux lire sans tomber sous le coup de la législation particulièrement répressive qui est la nôtre. Et vous n'évoquez pas, on en terminera avec ça, pour dire effectivement, nous n'évoquons pas la possibilité d'une révolte de la part des Français qui sont excédés. C'est effectivement un sujet que nous n'évoquerons pas. Merci encore Jean-Yves Le Gallou, merci Serge Martinez. Nous allons maintenant peut-être écouter un tout petit peu de musique avant de recevoir Olivier Tramon, journaliste à présent, qui va nous raconter l'interview qu'il a faite d'un journaliste. Vous me direz que interviewer un journaliste qui a interviewé un journaliste, c'est peut-être un peu bizarre, mais je crois que ça ne sera pas inintéressant pour autant.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, sur 95.6 MHz. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 29 mai de 18 à 21h, et en différé le jeudi 30 mai, dans la nuit de 2h à 5h, et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Pascal. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, adhérez à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 200 francs. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Volontaires et officiers blancs, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident.
Bonsoir à ceux qui prennent les missions en cours, c'est rare mais ça arrive, et qui ont donc raté l'entretien que nous venons d'avoir avec Jean-Yves Le Gallou à propos de son livre, le livre Bleu, Blanc, Rouge, plaidoyer pour une région enracinée, et avec Serge Martinez, patron de Minute La France, à propos de son édito Foutez-les dehors. Il s'agissait de proposer quelques remèdes
vigoureux
aux problèmes soulevés par les émeutes provoquées par les bandes ethniques. Dans la deuxième partie de cette émission, je vous rappelle que nous recevrons tout de suite Olivier Tramon, qui est journaliste à présent, Michel Valadier, qui est secrétaire général de Renaissance catholique, et Loïc Mérian, qui représente l'association Jeunes Chrétiens. Et ensuite, nous recevrons une partie de l'équipe de Jalon. Vous verrez ce qu'est Jalon, si vous ne le savez pas. Ce sont des gens tout à fait intéressants. Et puis, nous recevrons pour finir M. Casanova, président de l'association des Amis de l'Ancien Séminaire Saint-Louis, et M. Arsbronaonet, qui est écrivain et qui a fait un livre extraordinaire sur les runes. Les runes qui sont une écriture à la fois profane et sacrée. Ce livre est intitulé « Énergie sacrée, les runes ». Il est très beau et il est paru naturellement chez Guy Trédaniel, qui est un des éditeurs fous auxquels nous aimons ouvrir nos micros, parce que c'est quelqu'un qui fait du très beau travail d'éditeur, avec un très beau courage, parce que c'est pas toujours des choses faciles qu'il fait, il s'en faute beaucoup. Olivier Tramon, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes tout jeune journaliste, vous avez débuté récemment à Présent, et je vous ai demandé de venir parce que vous avez publié dans Présent une interview d'un autre journaliste. En général, j'aime pas trop que les journalistes interviewent les journalistes, parce que c'est pas notre travail, mais cette interview-là est particulièrement intéressante. Pourquoi ? Parce que le journaliste que vous avez rencontré s'appelle Michel Letéreux, qu'il est grand reporter à Varmatin, et qu'il a publié dans Varmatin, il y a maintenant à peu près un mois, un article absolument stupéfiant, qui présentait d'une façon fort étayée une piste nouvelle dans l'affaire de Carpentras. Cette piste est la suivante. Michel Letéreux dit qu'il lui a semblé, à travers des entretiens qu'il a eu avec des gens de la communauté israélite de Carpentras et des gens de la communauté pas israélite, qu'il y avait un malaise autour de cette affaire, un grave malaise, parce qu'il semblait vraisemblable que les profanateurs de Carpentras soient des membres de l'aile intégriste, fondamentaliste, traditionnaliste, dure de la communauté israélite, qui auraient voulu punir, en quelque sorte, pas punir, qui auraient voulu marquer leur désaccord avec le fait que des Israélites non conformes à la loi mosaïque aient été inhumés dans ce cimetière. Alors cette information a été publiée pas dans un journal extrémiste, pas dans un journal raciste, comme ils disent, mais dans Varmatin, qui est un quotidien de province, tout ce qui est de plus quotidien de province, après une enquête par un journaliste, qui est un journaliste sérieux, qui est un homme d'une cinquantaine d'années. C'est donc un événement. Le deuxième événement, c'est que cette affaire n'a fait absolument aucun bruit dans la presse, à l'exception des articles que Minute La France, National Hebdo, est présent consacré à cette piste.
L'Union internationale a également reproduit l'enquête de Michel Letereux.
Et vous avez rencontré Letereux. Alors, toute l'affaire, quel est l'intérêt, en fait, de cette affaire? C'est qu'elle ouvre une piste qui est pour le moins inattendue, mais cette affaire repose exclusivement sur le crédit qu'on peut accorder à l'auteur de l'enquête, Michel Letereux. C'est pour ça que je vous ai demandé de venir, parce que vous l'avez rencontré, vous êtes allé le voir, j'imagine, dans le Var, puisque je suppose que c'est là-bas qu'il
vit. Oui, je l'ai rencontré à Toulon, au locaux de Varmatin, dans le Var.
Alors, comment est ce personnage? Décrivez-le d'abord. Quel est son âge? Quelle est sa stature professionnelle? Est-ce qu'il vous est paru excité, normal, sérieux, fiable, crédible ou pas?
Il m'a l'air de quelqu'un de très crédible parce que tout à fait décontracté, professionnel, sûr de ce qu'il dit sans chercher à faire le scoop en affirmant des certitudes là où il n'en a pas. Chaque fois qu'il a pu avoir un doute sur la piste qu'il aurait découverte, il l'a exprimé. C'est quelqu'un qui a une cinquantaine d'années, qui est les tempes un peu grisonnantes. Il y a un ancien torero d'ailleurs. Il en a gardé peut-être un esprit un petit peu détendu.
Indépendant en tout cas.
Très indépendant, très indépendant. La preuve c'est qu'il a pu faire cet article, qu'on l'a envoyé faire cet article dans le journal Varmatin, qui comme vous l'avez dit, non seulement n'est pas un journal de racistes, mais qui, bon, faut savoir que Varmatin dépend du groupe Le Provençal étant le journal d'Yvan Levaille.
Oui, vous avez rapporté une cassette de cette interview. Le problème c'est que, je voulais la diffuser, le problème c'est que cette interview s'est passée dans les bureaux de Varmatin, mm-hmm. et que pendant tout le temps de votre entretien, on entend dans la pièce voisine, enfin dans le box voisin, j'imagine que c'est un box, quelqu'un qui tape à la machine. Et ça fait que on entend très très bien ce que dit Letereux, mais c'est assez insupportable à écouter. Alors, on peut peut-être, pour entendre sa voix, vous avez cette cassette ici, je vous l'ai rendue tout à l'heure, on peut peut-être essayer d'en passer un petit bout, si on la retrouve. Non, vous l'avez pas ici?
Je l'ai laissée à côté, malheureusement.
Si on peut la retrouver, Philippe, là-bas. Alors, vous nous dites, professionnel, 50 ans, grand reporter à Varmatin, qui fait cette enquête, qui en publie les résultats, et quelle est sa réaction quand il arrive à cette hypothèse? Est-ce qu'il a été choqué profondément? Est-ce qu'il a été gêné? Ou est-ce qu'il a considéré la chose comme, je dirais, le résultat d'une investigation sur laquelle il n'y avait pas de jugement de valeur à porter?
Je dirais qu'il était à la fois très surpris, parce qu'il n'avait eu aucune piste de ce type-là avant de faire son enquête sur place, et choqué, non. Choqué, non, parce qu'il a fait son travail sérieusement, il a rencontré des gens de la communauté juive, qui lui ont donné tout un tas d'éléments qui l'ont incité et qui l'ont aiguillé sur cette piste, et des éléments qui concordent. Donc il n'avait aucune raison d'être particulièrement choqué sur le plan moral, mais il était très surpris. Parce qu'il était envoyé là par son rédacteur en chef sans que celui-ci lui en ait parlé avant. Carpentras, ça s'est passé il y a plus d'un an maintenant. À l'époque, il était au Festival de Cannes, il avait donc suivi ça dans les journaux et la télévision. Et comme tout le monde, enfin comme tout le monde, comme tous les Français qui ont cru un petit peu au bombardement médiatique qu'il y a pu y avoir autour de ça, il a cru à la piste d'extrême droite des skinheads, du Front National, du moins comme inspirateur idéologique, comme l'a laissé entendre Pierre Jox et un certain nombre de responsables d'associations antiracistes. Ensuite, la piste qui a été lancée en pâture pour détourner le sujet, ça a été celle des jeunes, des enfants de Carpentras qui jouaient à des jeux de rôle dans le cimetière. C'est une piste qui s'est avérée tout aussi peu crédible que la première. Et tout ça, il a commencé à s'en rendre compte en faisant son enquête. On lui avait donné des contacts sur place, il a rencontré des gens qui ne lui ont absolument rien dit, mais qui lui ont dit, oui, peut-être que si vous rencontriez un tel, lui pourrait vous parler. Et c'est ainsi qu'il remontant de fil en aiguille, par des filières un peu différentes, par le contact, parce que dans le fond, c'est une communauté qui est assez... La communauté juive de Carpentras, elle est enracinée là-bas depuis un certain nombre de temps, depuis plusieurs siècles. De fait, les gens se connaissent assez bien, il y a des solidarités, il y a aussi des haines, des hostilités, des clans. Et c'est en remontant un petit peu de personne en personne, de fil en aiguille, qu'il a réussi à avoir tous ces éléments qui lui ont permis non pas d'affirmer, parce que il a pas de preuves, mais de soutenir avec comme une certaine certitude, une certaine assurance, que cette histoire pouvait très bien être un règlement de compte au sein de la communauté juive.
En tout cas, lui, il se contente de rapporter les propos qu'il a entendus, ce qui est un travail de journaliste, et il dit, voilà ce qu'on m'a dit. Et voilà, et les gens qui m'ont dit ça, alors il y a des choses bizarres. Par exemple, il explique que les gens qui lui ont parlé lui ont demandé de ne pas livrer leurs identités, mais qu'en revanche, ils se sont laissés photographier.
Ils se sont laissés photographier au départ, oui, et avec réticence. Mais il faut savoir que l'appareil photo et la pellicule ont été volés.
Alors, il raconte d'autre part que l'un des dirigeants de la communauté locale s'est presque battu avec lui quand il a sorti son magnétophone pour enregistrer leur entretien. Cet homme-là ne voulait absolument pas s'exprimer. Et d'ailleurs, on sait qu'il est parti, il a quitté la ville de Carpentras au moment de l'anniversaire. Il a fait dire, en tout cas, qu'il n'était plus en ville.
Mais cet homme, c'est pas n'importe qui à Carpentras. Je crois qu'il faut quand même un petit peu présenter qui c'est le docteur Haddad, qui est le président du consistoire israélite de Carpentras, qui est donc la personnalité juive la plus représentative de la ville, qui avait présidé toutes les cérémonies de réparation à l'issue de la profanation, qui, comme tout le monde, avait dénoncé l'antisémitisme, s'était laissé un petit peu emporter et avait volontiers collaboré au déluge qu'il y a pu y avoir contre l'extrême droite antisémite suite à la profanation de Carpentras. Et bon, ben, comme il avait pris un certain nombre de positions publiques à ce sujet, Michel Letellier a estimé normal qu'il réponde en public un an après où en était l'enquête. Qu'est-ce que ça devenait Carpentras aujourd'hui? Puisqu'il devait y avoir un avant et un après Carpentras, il allait lui demander un peu ce que devait être l'après Carpentras. Et le docteur Haddad, au téléphone, a refusé de le recevoir. Il a refusé plusieurs fois, Michel Letellier a insisté, il a fini par arriver chez lui, il a failli se faire jeter à la porte littéralement comme un malpropre. Finalement, il a réussi à rentrer, il a voulu interroger le docteur Haddad comme c'est normal, puisqu'il avait tenu des propos publics auparavant. Il a estimé qu'il pouvait tenir également en public à un journaliste des propos expliquant ses sentiments sur l'affaire. Et à ce moment-là, le docteur Haddad lui a sauté dessus, il a failli se battre pour lui arracher le magnétophone.
Et puis, le docteur Haddad a interdit également aux gardiens du cimetière de s'entretenir avec le journaliste en question.
Oui, tout à fait, parce que Michel Letellier avait demandé à voir le cimetière. Ce n'est quand même pas un secret d'État, un cimetière un an après la profanation. Et le gardien se proposait de l'accompagner. Et le docteur Haddad, effectivement, lui a littéralement interdit de faire le trajet avec Michel Letellier, de peur qu'il lui raconte des choses compromettantes, des choses qu'il ne faut pas dire sur l'état éventuel de l'enquête ou les rapports tendus qui ont pu exister au sein des communautés juives.
Alors Michel Letellier raconte autre chose, c'est qu'il dit qu'une autre personne qui avait disparu d'ailleurs au moment de l'anniversaire, et donc curieusement l'avocat est un ancien collaborateur de Maître Kiechmann, c'est quand même assez inattendu, donc une autre personne qui n'est autre que Madame Germont, la veuve de Félix Germont dont le corps avait été exhumé, Michel Letellier raconte que à Carpentras, certains font courir des bruits sur l'état de santé de Madame Germont et que même on a dit qu'elle était cinglée, quoi, pour tout dire, qu'elle était folle et qu'il fallait l'interner. Tout ça parce qu'elle demande la vérité.
Bien, Madame Germont, il faut d'abord savoir qu'elle ne fait pas partie de la communauté juive de Carpentras puisqu'elle est catholique. Ça a été considéré, je crois, comme un crime abominable par un certain nombre de responsables actuels de la communauté juive qui avait fait une enquête pour voir si M. Germont lui-même était bien juif et donc s'il pouvait être digne d'être enterré dans le cimetière israélite. Madame Germont n'a pas eu cette chance et donc, sitôt après la profanation, elle a été systématiquement écartée par les responsables de la communauté. Elle a reçu tout un certain nombre d'appels, de menaces de mort, de pressions. Il y a André Lajouani qui est venu la prendre par le bras au moment des funérailles. Elle a dû retirer des propos qu'elle avait tenus sur les rapports de son mari avec le Front National, notamment, puisqu'elle avait dit que son mari entretenait de bons rapports avec le Front National les tout premiers jours après la profanation, et elle a été obligée de retirer ça devant les caméras de télévision trois jours après, dans un état visiblement très affecté. Donc elle a reçu un certain nombre de coups de fil de menaces en tout genre, notamment des menaces de mort, et aujourd'hui elle a été mise en maison de retraite comme cinglée. Le but est de l'isoler complètement de l'enquête. Le but est de l'isoler complètement de la vérité, en fait. Elle ne doit pas savoir, et surtout elle ne doit pas dire,
Mais une fois que les hommes ont une position, ils ne tiennent pas à la perdre et ils la conservent.
Alors, vous nous dites que ce livre répond à une obligation morale que vous vous êtes imposée ou que vous avez découvert. Cette obligation morale, on peut dire que c'est le réveil de la tradition. Maintenant, j'imagine qu'il y a un autre objectif, il y a un but à ce livre, qui n'est pas seulement de réveiller la tradition, qui est quoi ?
Bien, c'est aussi de permettre à des gens qui s'intéressent à ce sujet d'utiliser les signes runiques dans, j'allais dire, le sens juste. de les utiliser pour des choses positives et non pas pour l'inverse.
Est-ce que vous n'avez pas peur que, de toute façon, certains s'en emparent pour en faire un usage contraire ?
C'est la règle du jeu.
Alors, la première partie du livre est consacrée à l'approche de la mythologie de l'Europe du Nord. Donc ça, c'est relié très directement à ce qu'on sait habituellement des runes. Premier thème, les Eddas, les sagas. Le second thème, c'est le domaine des énergies dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Le troisième, c'est la philosophie des formes. Alors ça, c'est un aspect passionnant et capital, je dirais, de la recherche. C'est probablement l'aspect clé de la puissance des runes, du rôle des runes. Ensuite, la deuxième partie du livre est divisée encore en trois thèmes. La compréhension des divines runes, les runes et l'archéologie, l'origine des signes runiques et la symbolique runique. Et puis, la troisième partie, l'ésotérisme des runes. Alors c'est peut-être là, justement, que se situe le danger, le risque, je ne sais pas comment exprimer cette impression que j'ai, que vous avez fait un livre qui est un livre qui risque d'être un peu une bombe ésotérique.
Bon, de toute façon, on peut faire une invocation à toute la thèse pour que les gens qui trouvent ce livre sur leur route
n'en fassent pas mauvais usage.
Voilà, ça, c'est mon souhait.
À qui s'adresse-t-il en fait ce livre ?
Il s'adresse à tous les gens qui souhaitent avoir une information sur les runes, d'une part, et d'autre part, aussi faire une approche à travers la tradition. En ce sens que le plan de ce travail consiste déjà à faire une approche par différents thèmes qui permettent d'avoir une idée des runes. Alors que si on aborde ce sujet-là en direct, nous n'avons pas la possibilité d'avoir toute la conscience de ce que ça représente. Donc il y a toute une démarche préalable sur les énergies pour aborder les runes en tant que symbole ou signe symbole.
Je crois que ce qu'il faut dire, c'est que c'est un livre qui est à la fois un livre technique, c'est un livre, je n'ose pas dire universitaire, mais c'est un livre très très fortement technique, et puis c'est un livre qui est un livre spirituel. Il faut le lire avec cet œil, c'est-à-dire on peut le lire si on est archéologue, historien, technicien, on peut le lire de cette façon-là, on peut également le lire comme un ouvrage de spiritualité dans la tradition celtique.
Bon. Est-ce que vous avez connu le livre de Guido von Liszt, Le secret des runes, qui avait été publié au début du siècle ?
Pas du tout.
Parce que c'est un livre introuvable en France, qui je pense d'ailleurs n'a jamais été traduit, et qui donc, au moment où l'Allemagne se intéressée à ses racines, du temps du pan-germanisme, bien avant Hitler, avait donc abordé cet aspect. Vous dites que vous voulez vous intéresser à notre tradition, c'est évidemment vrai dans ce livre, mais en même temps, vous faites une série de références aux cunéiformes, à certaines symboliques chinoises ou indiennes à propos des pieds notamment. Et on peut voir que vous essayez de faire un rapprochement entre notre tradition et celles qui viennent d'autres lieux. Est-ce que vous croyez à la tradition primordiale ?
Tout à fait. L'histoire du pied chinois, si je puis faire une petite parenthèse, c'est simplement à propos de la swastika pour démontrer que c'est un symbole universel. Quant à votre propos sur les modes d'expression graphique, ça c'est peut-être la partie universitaire, effectivement, parce que dans l'université française ne sont enseignés que les signes runiques en tant qu'écriture. Et donc il me paraissait utile d'y consacrer un certain nombre de pages pour que ceux qui n'ont abordé ce sujet qu'à travers l'université puissent quand même s'y retrouver et avoir une approche avec les signes qui en dérivent.
Hans Brunner-Odette, je vous remercie. On arrive à la fin de cette émission, malheureusement. Je ne peux que recommander la lecture de votre livre à ceux qui s'intéressent à ce sujet, qui est un sujet complexe. Mais c'est un livre qui correspond parfaitement, je crois, aux visées que vous étiez imposées, c'est-à-dire au devoir moral que vous étiez imposé. C'est un livre, c'est un travail extraordinaire, d'une dimension exceptionnelle. C'est un beau travail d'universitaire, mais c'est aussi un travail de vrai breton. et j'espère que nous aurons la suite de ce travail prochainement si l'ours du pays nantais retourne dans sa tanière pour préparer un autre livre sur les runes.
Il est à noter, Serge, que l'ours est l'animal de la deuxième fonction. Hein. Donc
oui.
Notre ami qui fait un livre très druidique prend un patronyme de la deuxième fonction.
Voilà, c'est comme ça que nous terminerons. C'est la justification de ce livre.
Heureusement, merci. Heureusement que les auditeurs ne me voient pas parce que je suis tout rouge.
Merci Arve Bonnonnet. Merci Nicolas Bonal.
Et merci à vous
tous. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, 95.6 MHz. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech diffusé en direct le mercredi 29 mai de 18 à 21h et en différé le jeudi 30 mai dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. C'est grâce à ses auditeurs que vit Radio Courtoisie. Pour nous aider à demeurer libre, adhérer à notre association, la cotisation annuelle minimum est de 200 francs.